RFI, il est minuit à Paris, 23h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, des dizaines de milliers de manifestants en Serbie, ils demandent au gouvernement d'assumer ses responsabilités après l'effondrement d'un toit dans une gare ferroviaire qui a fait 15 morts le mois dernier. Dans ce journal également, la Jordanie envoie de l'aide humanitaire à destination de la Syrie, une livraison de 200 tonnes qui acte un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Et puis, Donald Trump menace de reprendre le contrôle du canal de Panama, vous l'entendrez. Le gouvernement et le président serbe sous pression. Les manifestants appellent à leur démission. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers dans les rues de la capitale. Correspondance de Laurent Rouy à Belgrade.
À l'appel des étudiants, ceux-là même qui occupent plus de 50 universités dans le pays, et d'un syndicat d'agriculteurs, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Belgrade pour réclamer la fin de la corruption et de l'impunité des responsables politiques. Plus de 30 000 personnes, ce qui est énorme pour la Serbie, qui compte un peu plus de 6 millions d'habitants, ont brandi l'image d'une main ensanglantée. Elle symbolise, selon eux, la responsabilité du gouvernement dans la mort de 15 personnes suite à l'effondrement dû au vent de la gare de la deuxième ville du pays, qui venait d'être rénové. Plusieurs centaines de manifestants se sont ensuite dirigés vers le Parlement où ils ont réclamé la démission de la présidente de cette institution et du président Aleksandar Vučić. Le pouvoir, qui avait fait arrêter des leaders paysans en début d'après-midi, a été obligé, chose rarissime, de reconnaître l'ampleur de la mobilisation qui a même été abordée dans les médias pro-gouvernementaux. Deux petites victoires. Une nouvelle manifestation est prévue mercredi. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Direction le Proche-Orient désormais. Agir avec force et détermination. Avertissement ce dimanche de Benjamin Netanyahou à l'encontre des Houthis. Ces rebelles du Yémen avaient lancé une frappe à Tel Aviv, faisant 16 blessés légers. C'est la deuxième attaque lancée par les Houthis en 3 jours. L'armée américaine, alliée d'Israël, a réagi en visant des installations militaires rebelles à Sanaa, la capitale yéménite. Dans la région, les combats se poursuivent à Gaza. 28 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans des frappes israéliennes. Vendredi, un bâtiment scolaire a été touché et a fait 8 morts, dont 4 enfants. Le pape François condamne pour la deuxième fois en 2 jours la cruauté de ces frappes. Israël l'accuse de 2 poids 2 mesures, et ce malgré les espoirs d'un cessez-le-feu d'ici la fin de l'année. Le Hamas et 2 autres groupes palestiniens avaient déclaré qu'un accord de trêve était plus proche que jamais. En Syrie, les diplomates et responsables politiques se rendent auprès des nouvelles autorités pour rencontrer Abu Mohamed El-Jolani. Ce dimanche, le ministre turc des Affaires étrangères a rencontré l'ancien chef d'Al-Qaïda. Hakan Fidan a déclaré que les sanctions contre la Syrie doivent être levées dès que possible. La situation humanitaire reste très précaire en Syrie. Son voisin jordanien a donc envoyé un convoi d'aide humanitaire. Cela marque un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Reportage de notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami.
La Jordanie a envoyé une caravane de 10 camions, près de 200 tonnes d'aide humanitaire au Croissant Rouge syrien pour soutenir le nouveau gouvernement après la chute de Bachar al-Assad. Cette première livraison marque le début d'une série incluant des fournitures médicales, selon Hussein El-Shibli, humanitaire de la Fondation Hachemite.
Cette première caravane sera suivie d'autres qui seront distribuées dans plusieurs régions. Nous commencerons dès maintenant à ouvrir la porte aux dons et à l'aide du peuple jordanien pour les frères et sœurs en Syrie. Et cela se poursuivra jusqu'à ce que ce pays retrouve sa stabilité.
Les aides jordaniennes, selon l'expert économique jordanien Obeida Rabhi, contribueront à soutenir les familles touchées par le conflit armé qui dure depuis plus de 13 ans et permettront aux déplacés de recevoir de la nourriture dans un contexte où les organisations humanitaires étaient empêchées de travailler en Syrie jusqu'à présent.
Les aides sont adaptées aux besoins des familles syriennes touchées, notamment car des milliers de foyers vivent dans des conditions particulièrement difficiles en raison des conflits militaires et politiques, surtout dans les régions qui étaient hors du contrôle du précédent régime syrien.
La Jordanie cherche à établir de bonnes relations avec le nouveau régime syrien, d'autant plus que la Syrie représente un axe économique stratégique pour la Jordanie. Grâce à la frontière commune, les marchandises peuvent désormais être exportées vers la Syrie, le Liban, la Turquie et même l'Europe. Mohamed Erami, Amman, RFI.
à Moscou. Le président russe Vladimir Poutine a reçu dimanche le premier ministre slovaque Robert Fico, l'un des seuls dirigeants européens à être resté proche de lui. Les sujets de discussion n'ont pas été dévoilés, mais il pourrait s'agir de l'acheminement de gaz russe dont la Slovaquie est très dépendante. Robert Fico reproche à Kiev de mettre en péril son approvisionnement en gaz et avait décidé de stopper toute aide militaire à l'Ukraine. L'Ukraine qui compte d'ailleurs mettre fin le 1er janvier au contrat permettant au gaz russe de transiter par son territoire. En France, malgré la promesse d'un gouvernement ce week-end, le Premier ministre François Bayrou n'a toujours pas trouvé son équipe. Il s'est entretenu avec le président Emmanuel Macron à 3 reprises ce dimanche. Son entourage indique qu'il effectue les derniers réglages. Il faudra donc attendre un peu, lundi, peut-être mardi. En tout cas, ce lundi sera jour de deuil national pour l'archipel de Mayotte en hommage aux victimes du cyclone Chido. RFI, 18h06 à Washington. À moins d'un mois de sa prise de fonction, le président élu Donald Trump continue de menacer ses partenaires commerciaux. Ce samedi, dans un message publié sur les réseaux sociaux, il s'en est pris au canal de Panama. Il relie l'Atlantique au Pacifique et les États-Unis en sont le principal client. Mais le milliardaire américain estime que les prix pratiqués sont trop élevés et menace de demander au Panama de rendre le canal aux États-Unis si les droits de passage ne baissent pas. Justine Fontaine.
Soyons clairs, les États-Unis n'ont aucun argument juridique à faire valoir pour récupérer le canal de Panama. Certes, c'est bien eux qui l'ont construit au début du XXe siècle, quand le petit pays d'Amérique centrale était un protectorat américain. Mais le Panama a obtenu la pleine souveraineté sur le canal il y a 25 ans et ne compte pas y renoncer. Concernant les prix maintenant, si les Américains grincent des dents, c'est parce que le canal a effectivement augmenté certains de ses droits de péage pour compenser la sécheresse qui l'avait obligé à réduire son trafic à partir de 2023. Olmedo Estrada, économiste panaméen, joint par Raphaël Morand.
L'une des stratégies qu'a utilisé le canal a été de lancer des enchères sur les droits de passage. Les bateaux qui avaient besoin d'arriver très vite à destination ont donc payé beaucoup plus que d'habitude.
Grâce à cette politique, le canal a enregistré des recettes records cette année, près de 5 milliards de dollars. Ces tout derniers mois, la saison des pluies a fait remonter les niveaux d'eau et avec ça le nombre de bateaux autorisés à passer. Près de 70% du trafic se fait vers ou depuis les États-Unis.
Donald Trump qui a annoncé ce dimanche vouloir arrêter, je cite, le délire transgenre dès son premier jour à la Maison-Blanche. Nouvelle salve du camp républicain contre les droits de la communauté LGBT. Il a déclaré qu'il signera des décrets pour, je cite, mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, exclure les transgenres de l'armée et les exclure des écoles primaires, des collèges et des lycées. En Belgique, cette querelle linguistique qui fait polémique. Un contrôleur de train a dit bonjour en français et en néerlandais, ce qui n'a pas plu à un voyageur qui a porté plainte contre lui. Pourquoi ? Eh bien parce que le train circulait en région flamande, à Bruxelles, les précisions de Jean-Jacques Herry.
En entrant dans un wagon, le chef de bord aurait prononcé ces mots « Goedemorgen, bonjour », saluant les passagers dans les deux langues. Or, à ce moment-là, le train à destination de Bruxelles se trouvait encore en région flamande. « On n'est pas à Bruxelles ici, vous devez seulement utiliser le néerlandais », lui lance alors un passager mécontent qui décidera ensuite de porter plainte auprès de la commission permanente de contrôle linguistique pour non-respect des règles linguistiques dans un transport public. La législation est en effet très tatillonne. À Bruxelles, zone bilingue, les annonces se font en français en néerlandais, en Wallonie seulement en français et en Flandre uniquement en néerlandais. Le débat a fini par s'inviter jusqu'à la Chambre des députés. Sami Madi, chef des chrétiens démocrates flamands, parfaitement bilingue, au micro de RTL Info.
On dit souvent, oui, si on fait les deux, c'est bien. Et au final, qu'est-ce qu'on fait ? On parle français. Si à côté de cela, on n'investit pas dans le néerlandais, qu'on précise qu'il faut apprendre le néerlandais, au final, on parle surtout le français.
De quoi provoquer une petite passe d'armes avec le ministre fédéral de la mobilité, le francophone Georges Guinet.
Permettez-moi de m'étonner que certains considèrent que c'est la priorité du jour, alors qu'ils ont aussi un gouvernement informé.
Bref, une histoire belge, a commenté le journal La Dernière Heure. Un vrai marqueur culturel, a renchéri un chroniqueur de la RTBF, la radio publique francophone. Nulle part au monde, un type ne va déposer plainte pour un Goedemorgen bonjour. La SNCB, Société Nationale des Chemins de Fer, a annoncé quant à elle soutenir son employé et plaide pour plus de souplesse dans l'application de la réglementation. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Il est presque 10:30 à Paris, 23h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.